Chapitre 11, dans lequel le monde savant de Galia se lance en idée au milieu des infinis de l'espace. Un mois s'écoula. Galia continuait à graviter, emportant son petit monde avec elle. Petit monde en effet, mais peu accessible jusqu'alors à l'influence des passions humaines. La cupidité, l'égoïsme n'y étaient représentés que par Acabut, et c'était la seule tâche que l'on put réserver à ce microcosme séparé de l'humanité. Après tout, ces Galiens ne devaient se considérer que comme des passagers, faisant un voyage de circumnavigation dans le monde solaire. De là cette pensée de s'installer à bord aussi confortablement que possible, mais temporairement. Ce tour du monde achevé, après 2 ans d'absence, leur navire accosterait l'ancien sphéroïde, et si les calculs du professeur étaient d'une absolue justesse, mais il fallait qu'ils le fussent, ils quitteraient la comète pour remettre le pied sur les continents terrestres. Il est vrai que l'arrivée du navire Galia à la Terre, son port d'attache, ne s'opérerait sans doute qu'au prix de difficultés extrêmes, de dangers vraiment terribles. Mais c'était là une question à traiter plus tard et qui viendrait en son temps. Le comte Timachef, le capitaine Servadac, le lieutenant Procope se croyaient donc à peu près assurés de revoir leurs semblables dans un délai relativement court. Ils n'avaient donc point à se préoccuper d'amasser des réserves pour l'avenir, d'utiliser pour la saison chaude les portions fertiles de l'île Gourbie, de conserver les diverses espèces d'animaux, quadrupèdes et volatiles, qu'ils destinaient dans le principe à reconstituer le règne animal sur Galia. Mais que de fois en causant, ils parlèrent de ce qu'ils auraient tenté pour rendre leur astéroïde habitable s'il leur eût été impossible de le quitter un jour. Que de projets à exécuter, que de travaux à accomplir pour assurer cette existence d'un petit groupe d'êtres qu'un hiver de plus de 20 mois rendait si précaire. C'était au 15 janvier prochain que la comète devait atteindre l'extrémité de son grand axe, c'est-à-dire de son aphélie. Ce point dépassé, sa trajectoire la ramènerait vers le Soleil avec une vitesse croissante. 9 à 10 mois s'écouleraient encore avant que la chaleur solaire eût rendu la mer libre et la terre féconde. Alors, c'eût été l'époque à laquelle la Dobryna et la Hansa auraient transporté hommes et animaux à l'île Gourbie. Les terres auraient été rapidement mises en état pour cette saison si courte, mais si chaude de l'été galien. Semé en temps opportun, ce sol aurait produit en quelques mois les fourrages et céréales nécessaires à l'alimentation de tous. La fenaison, la moisson eussent été faites avant le retour de l'hiver. On aurait vécu sur l'île de la vie large et saine des chasseurs et des agriculteurs. Puis, l'hiver revenu, on aurait repris cette existence de troglodyte dans les alvéoles du mont Inivôme. Les abeilles auraient essaimé vers Ninaruche pour y passer la dure et longue saison froide. Oui, les colons seraient ainsi rentrés à leur chaude demeure. Toutefois, n'auraient-ils pas tenté quelque lointaine exploration pour découvrir une mine de combustible, un gisement de charbon aisément exploitable? N'auraient-ils pas cherché à se construire sur l'île Gourbie même une habitation plus confortable, plus appropriée aux besoins de la colonie et aux conditions climatériques de Galia? Ils l'eussent fait, certainement. Ils auraient essayé, du moins, afin d'échapper à cette longue séquestration dans les cavernes de la Terre chaude. Séquestration plus regrettable encore du point de vue moral qu'au point de vue physique. Il fallait être un palmyrin rosette, un original absorbé dans ses chiffres, pour n'en pas sentir les graves inconvénients, pour vouloir demeurer sur Galia dans ces conditions ad infinitum. D'ailleurs, une éventualité terrible menaçait toujours les habitants de la Terre chaude. Pouvait-on affirmer qu'elle ne se présenterait pas dans l'avenir? Pouvait-on même assurer qu'elle ne se produirait pas avant que le Soleil eût restitué à la comète cette chaleur que son habitabilité exigeait? La question était grave et fut plus d'une fois traitée pour le présent et non pour un avenir auquel les Galiens espéraient échapper par leur retour à la Terre. En effet, ne pouvait-il arriver que ce volcan qui chauffait toute la terre chaude ne vînt à s'éteindre ? Les feux intérieurs de Gallia n'étaient-ils pas épuisables ? L'éruption finie, que deviendraient les habitants de Ninaruche ? Devraient-ils donc s'enfoncer jusque dans les entrailles de la comète pour y trouver une température supportable ? Et là, leur serait-il même possible de braver l'effroi de l'espace ? Évidemment, dans un avenir aussi lointain qu'on voudra le supposer, le sort de Gallia devait être celui qui semble réservé à tous les mondes de l'univers. Ses feux internes s'éteindraient. Elle deviendrait un astre mort, comme l'est maintenant la Lune, comme le sera la Terre. Mais cet avenir n'était plus maintenant pour préoccuper les Galliens, ils le croyaient du moins, et ils comptaient avoir quitté Gallia bien avant qu'elle fût devenue inhabitable. Toutefois, l'éruption pouvait cesser d'un moment à l'autre, comme il arrive aux volcans terrestres, avant même que la comète se fût suffisamment rapprochée du Soleil. Et dans ce cas, où prendre cette lave qui distribuait si utilement la chaleur jusque dans les profondeurs du massif ? Quel combustible fournirait assez de caloriques pour rendre à cette demeure la température moyenne qui devait permettre d'y supporter impunément des froids de 60 degrés au-dessous de zéro ? Telle était cette grave question. Heureusement, aucune modification ne s'était alors manifestée dans l'épanchement des matières éruptives. Le volcan fonctionnait avec une régularité et, on l'a dit, un calme de bon augure. Donc, à cet égard, il n'y avait à s'inquiéter ni de l'avenir, ni même du présent. C'était l'opinion du capitaine Servadac, toujours confiant d'ailleurs. Au 15 décembre, Gallia se trouvait à 216 millions de lieues du Soleil, presque à l'extrémité du grand axe de son orbite. Elle ne gravitait plus qu'avec une vitesse mensuelle de 11 à 12 millions de lieues. Un monde nouveau s'offrait alors au regard des Galliens, et plus particulièrement à ceux de Palmyra Rosette. Après avoir observé Jupiter de plus près que jamais humain ne l'eût fait avant lui, le professeur se concentrait maintenant dans la contemplation de Saturne. Toutefois, les circonstances de proximité n'étaient pas les mêmes. 13 millions de lieues seulement avaient séparé la comète du monde jovien. 173 millions de lieues la séparaient de la curieuse planète. Donc, pas de retard à craindre de ce chef, autre que ceux qui avaient été calculés, et par conséquent, rien de grave à redouter. Quoi qu'il en soit, Palmyra Rosette allait pouvoir observer Saturne comme si, étant sur la Terre, la planète se fût rapprochée de lui du demi-diamètre de son orbite. Il était inutile de lui demander quelques détails sur Saturne. L'ex-professeur n'éprouvait plus le besoin de professer. On ne l'eût pas aisément fait quitter son observatoire, et il semblait que l'oculaire de sa lunette fût nuit et jour vissé à ses yeux. Très heureusement, la bibliothèque de la Dobryna comptait quelques livres de cosmographie élémentaire, et grâce au lieutenant Procope, ceux des Galliens que ces questions astronomiques intéressaient purent apprendre ce qu'était le monde de Saturne. Tout d'abord, Ben Zoof eut lieu d'être satisfait. Quand on lui dit que, si Gallia s'était éloignée du Soleil à la distance où gravitait Saturne, il n'aurait plus aperçu la Terre à l'œil nu. Or, on sait que l'ordonnance tenait particulièrement à ce que son globe terrestre fût toujours visible à ses yeux. « Tant qu'on voit la Terre, rien de perdu, » répétait-il. Et de fait, à la distance qui sépare Saturne du Soleil, la Terre eût été invisible, même aux meilleurs yeux. Saturne, à cette époque, flottait dans l'espace à 175 millions de lieues de Gallia, et par conséquent à 364 350 000 lieues du Soleil. À cette distance, il ne recevait au plus que le centième de la lumière et de la chaleur que l'astre radieux envoyait à la Terre. Livre en main, on apprit que Saturne opère sa révolution autour du Soleil en 29 ans et 167 jours, parcourant, avec une vitesse de 8858 lieues par heure, une orbite de 2 297 500 000 lieues, toujours en négligeant les centimes, comme disait Ben Zoof. La circonférence de cette planète mesure à l'équateur 90 390 lieues. Sa surface est de 40 milliards de kilomètres carrés, son volume de 666 milliards de kilomètres cubes. En somme, Saturne est 735 fois gros comme la Terre, conséquemment plus petit que Jupiter. Quant à la masse de la planète, elle n'est que 100 fois plus grande que celle du globe terrestre, ce qui lui assigne une densité moins forte que l'eau. Elle tourne sur son axe en 10h29, ce qui compose son année de 24 630 jours, et ses saisons, vu l'inclinaison considérable de l'axe sur le plan de l'orbite, durent 7 ans terrestres chacune. Mais ce qui doit donner aux Saturniens, s'il y en a, des nuits splendides, ce sont les 8 lunes qui escortent leur planète. Elles ont des noms très mythologiques, Midas, Encélade, Tétis, Dione, Rhéa, Titan, Hyperion, Japé. Si la révolution de Midas ne dure que 22h30, celle de Japé est de 79 jours. Si Japé gravite à 910 000 lieues de la surface de Saturne, Midas circule à 34 000 lieues seulement, presque trois fois plus près que la Lune ne tourne autour de la Terre. Elles doivent être splendides ces nuits, bien que l'intensité de la lumière émanée du Soleil soit relativement faible. Ce qui rend plus belle encore les nuits de cette planète, c'est incontestablement le triple anneau qui s'enroule autour d'elle. Saturne semble être enchâssée dans une brillante monture. Un observateur, placé exactement sous cet anneau, qui passe alors par son zénith à 5165 lieues au-dessus de sa tête, n'aperçoit qu'une étroite bande dont Herschel n'évalue la largeur qu'à 100 lieues. C'est donc comme un fil lumineux qui serait tendu sur l'espace. Mais que l'observateur s'écarte d'une part ou d'autre, il voit alors trois anneaux concentriques se détacher peu à peu les uns des autres. Le plus rapproché, obscur et diaphane, large de 3126 lieues. L'anneau intermédiaire, large de 7388 lieues et plus brillant encore que la planète elle-même. Et enfin, l'anneau extérieur, large de 3678 lieues et présentant au regard une teinte grisâtre. Tel est l'ensemble de cet appendice annulaire qui se meut dans son propre plan en 10h30 minutes. De quelle matière est formé cet appendice? Comment résiste-t-il à la désagrégation? Nul ne le sait, mais en le laissant subsister, il semble que le Créateur ait voulu apprendre aux humains de quelle manière se sont peu à peu formés les corps célestes. En effet, cet appendice est le reste de la nébuleuse qui, après s'être concentrée peu à peu, est devenue Saturne. Pour une raison inconnue, il s'est probablement solidifié lui-même, et s'il venait à se briser, ou il tomberait en morceaux sur Saturne, où ces morceaux feraient à la planète autant de nouveaux satellites. Quoi qu'il en soit, pour les Saturniens habitant leur sphéroïde entre les 45e degré de latitude et l'équateur, ce triple anneau doit donner naissance aux phénomènes les plus curieux. Tantôt il se dessine sur l'horizon comme une arche immense, rompue à sa clé de voûte par l'ombre que Saturne projette dans l'espace, tantôt il apparaît dans son entier comme une demi-auréole. Très fréquemment, cet appendice éclipse le Soleil, qui paraît et reparaît dans des temps mathématiques, à la grande joie sans doute des astronomes saturniens. Et si l'on ajoute à ce phénomène le lever, le coucher des 8 lunes, les unes pleines, les autres en quadrature, ici des disques argentés, là des croissants aigus, l'aspect du ciel de Saturne pendant la nuit doit offrir un incomparable spectacle. Les Galiens n'étaient pas à même d'observer toutes les magnificences de ce monde, ils en étaient trop éloignés. Les astronomes terrestres, armés de leurs lunettes, s'en rapprochent mille fois plus, et les livres de la Dobryna en apprirent plus au capitaine Servadac et à ses compagnons que leurs propres yeux. Mais ils ne s'en plaignaient pas, le voisinage de ces grands astres constituant des dangers trop graves pour leur infime comète. Ils ne pouvaient pénétrer davantage dans le monde plus lointain encore d'Uranus, mais on l'a déjà mentionné, la planète principale de ce monde, 82 fois grosse comme la Terre, dont elle n'est visible que comme une étoile de sixième grandeur à sa plus courte distance, apparaissait alors très distinctement à l'œil nu. Toutefois, on ne voyait aucun de ces 8 satellites qu'elle entraîne avec elle sur son orbe elliptique, qu'elle emploie 84 ans à décrire et qui s'éloigne en moyenne à 729 millions de lieues du Soleil. Quant à la dernière planète du système solaire, la dernière jusqu'au moment où quelque le verrier de l'avenir en découvrira une autre plus éloignée encore, les Galiens ne pouvaient l'apercevoir. Palmyra Rosette la vit sans doute dans le champ de sa lunette, mais il ne fit à personne les honneurs de son observatoire, et on dut se contenter d'observer Neptune dans les livres de cosmographie. La distance moyenne de cette planète au Soleil se mesure par 1 milliard 140 millions de lieues, et la durée de sa révolution est de 165 ans. Neptune parcourt donc son immense orbite de 7 milliards 170 millions de lieues avec une vitesse de 20 000 km à l'heure, sous la forme d'un sphéroïde 100 fois plus considérable que celui de la Terre, autour duquel circule un satellite à une distance de 100 000 lieues. Cette distance de 1200 millions de lieues environ, à laquelle gravite Neptune, paraît être la limite du système solaire. Et cependant, quelque grand que soit le diamètre de ce monde, il est insignifiant si on le compare à celui du groupe sidéral auquel on rattache l'astre radieux. Le Soleil, en effet, semble faire partie de cette grande nébuleuse de la Voie lactée, au milieu de laquelle il ne brille que comme une modeste étoile de quatrième grandeur. Où donc aurait été Galia si elle eût échappé à l'attraction solaire ? À quel nouveau centre se fût-elle attachée en parcourant l'espace sidéral ? Peut-être à la plus rapprochée des étoiles de la Voie lactée. Or, cette étoile, c'est Alpha de la constellation du Centaure. Et la lumière, qui fait 77 000 lieues à la seconde, emploie 3 ans et demi à lui venir du Soleil. Quelle est cette distance ? Elle est telle que, pour la chiffrer, les astronomes ont dû prendre le milliard comme unité, et ils disent qu'Alpha est à 8000 milliards de lieues. Connaît-on un grand nombre de ces distances stellaires ? 8 au plus ont été mesurées, et parmi les principales étoiles auxquelles cette mesure a pu être appliquée, on cite Vega, placée à 50 000 milliards de lieues, Sirius à 52 200 milliards, la Polaire à 117 600 milliards, la chèvre à 170 400 milliards de lieues. Ce dernier nombre est déjà composé de 15 chiffres. Et pour donner une idée de ces distances, en prenant pour base la vitesse de la lumière, d'après d'ingénieux savants, on peut raisonner ainsi. Supposons un être doué d'une puissance de vision infinie, et mettons-le sur la chèvre. S'il regarde la Terre, il sera témoin des faits qui se sont accomplis il y a 72 ans. S'il se transporte sur une étoile 10 fois plus éloignée, il y verra les événements qui se sont produits il y a 720 ans. Plus loin encore, à une distance que la lumière emploie 1800 ans à franchir, il assistera à cette grande scène de la mort du Christ. Plus loin encore, s'il faut au rayon lumineux 6000 ans pour arriver à son œil, il pourra contempler les désolations du déluge universel. Plus loin enfin, puisque l'espace est infini, il verrait, suivant la tradition biblique, Dieu créant les mondes. En effet, tous les faits sont, pour ainsi dire, stéréotypés dans l'espace, et rien ne peut s'effacer de ce qui s'est une fois accompli dans l'univers céleste. Peut-être avait-il raison l'aventureux Palmyrin Rosette de vouloir courir ce monde sidéral où tant de merveilles eussent charmé ses yeux. Si la comète fut entrée successivement au service d'une étoile puis d'une autre, quel système stellaire si différent il aurait observé! Galia se serait déplacée avec ces étoiles dont la fixité n'est qu'apparente et qui se meuvent pourtant. Ainsi fait Arcturus, avec une vitesse de 22 lieues par seconde. Le Soleil lui-même marche à raison de 62 millions de lieues annuellement, en se dirigeant vers la constellation d'Hercule. Mais telle est la distance de ces étoiles que leurs positions respectives, malgré ce rapide déplacement, n'ont pu être encore modifiées pour les observateurs terrestres. Cependant, ces déplacements séculaires doivent nécessairement altérer un jour la forme des constellations, car chaque étoile marche ou paraît marcher avec des vitesses inégales. Les astronomes ont ainsi pu indiquer les positions nouvelles que les astres prendront l'un par rapport à l'autre dans un grand nombre d'années. Les dessins de certaines constellations, tels qu'ils seront dans 50 000 ans, ont été reproduits graphiquement. Ils offrent à l'œil, par exemple, au lieu du quadrilatère irrégulier de la Grande Ourse, une longue croix projetée sur le ciel, et à la place du pentagone de la constellation d'Orion, un simple quadrilatère. Mais ni les habitants actuels de Galia, ni ceux du globe terrestre, n'auraient pu constater de leurs yeux ces dislocations successives. Ce n'est pas ce phénomène que Palmyrin eût été chercher dans le monde sidéral. Si quelque circonstance eût arraché la comète à son centre attractif pour l'asservir à d'autres astres, alors ses regards eussent été ravis par la contemplation de merveilles dont le système solaire ne peut donner aucune idée. Au loin, en effet, les groupes planétaires ne sont pas toujours gouvernés par un soleil unique. Le système monarchique semble banni de certains points des cieux. Un soleil, deux soleils, six soleils, dépendant les uns des autres, gravitent sous leurs influences réciproques. Ce sont des astres diversement colorés, rouge, jaune, vert, orange, indigo. Combien doivent être admirables ces contrastes de lumière qu'ils projettent à la surface de leur planète. Et qui sait si Galia n'eût pas vu se lever sur son horizon des jours faits successivement de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il ne devait pas lui être donné de graviter sous la puissance d'un nouveau centre, ni de se mêler aux amas d'étoiles que les puissants télescopes ont pu décomposer, ni de se perdre dans ces points stellaires qui sont partiellement résolus, ni enfin au milieu de ces compactes nébuleuses qui résistent aux plus puissants réflecteurs, nébuleuses dont les astronomes connaissent plus de 5000 disséminées dans l'espace. Non, Galia ne devait jamais quitter le monde solaire, ni perdre la Terre de vue. Et après avoir décrit un orbe de 630 millions de lieues environ, elle n'aurait fait cependant qu'un insignifiant voyage dans tout cet univers dont l'immensité est sans limite.